Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Jean-Baptiste Videha.
Merci de rester à l'écoute de la radio Nzamba. Nous sommes lundi le 30 novembre 2020. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française. Innocent Kugimana est à la manette à la présentation de ce journal. Jean-Baptiste Bideha, d'abord les principaux titres. Une femme de 53 ans a été tuée par son propre fils de 18 ans. Cela s'est passé ce dimanche sur la colline Mwarangabo, commune Mugina, c'est dans la province de Cibitoke. Pas de traces depuis 15 jours pour deux détenus de la prison de Muranvia. C'est le responsable du service national des renseignements à Mwaro, Gérald Ndaisenga, qui les a fait sortir de la prison. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLICOM, demande l'intervention du président de la République, Valit Ndaishimiye, pour sauver les sociétés Onaté et les régies des eaux à bord de faillite. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Rebonsoir, une femme de 53 ans a été tuée ce dimanche sur la colline Mwarangabo, commune Mugina, dans la province de Cibitoke. Elle a été tuée par son propre fils âgé de 18 ans à l'aide d'une machette. L'administration dit ne pas avoir les mobiles de ce crime. Le présumé assassin devrait être présenté ce lundi devant le parquet de Cibitoke pour un procès de flagrance révérien basique.
Le meurtre a été commis vers 9h du matin de ce dimanche. Selon les sources proches de la famille, Théogène Maniramhaye n'a jamais averti sa mère sur base d'une quelconque frustration. Les voisins disent être étonnés de cet acte ignoble puisqu'il n'existait aucun conflit dans la famille. L'image du cadavre montre que Virginie Kabadege a été cruellement tuée. Son corps présentait beaucoup de plaies au niveau de son visage, de sa tête et sur ses jambes. L'administration communale de Mugina est intervenue. Le présumé assassinarié est révélé comme conflit qui lui pousserait à ce crime. L'administrateur de Mugina, Julien Ndaihaye, a fait savoir que Théogène doit répondre à ses actes devant le parquet de Cibitoke. Jusqu'à 16h de ce lundi, il était sous interrogatoire dans un procès de flagrance au parquet de Cibitoke. Un autre cas horrible s'est produit ce dimanche à Gitega, où une jeune fille aurait été retrouvée morte non loin de la colline Songa, dans la commune de Gitega. Selon des informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, elle aurait été égorgée par un jeune homme avec qui elle venait de passer un moment ensemble. Aucune source administrative ne s'est exprimée pour confirmer les faits.
Merci, Révenier Bazikamwe. Une campagne s'impose pour apprendre au Burundi le respect de la vie humaine et les notions de civisme. Ceci est un cri d'alarme lancé par Madame Sophie Shima, porte-parole du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. C'est dans le but de dénoncer les actes de barbarie et de tuerie qui se font à l'endroit des femmes et filles sans que justice soit rendue. On l'écoute.
Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi a pris connaissance des assassinats de deux femmes durant ce week-end. Ces exactions se rajoutent à la longue liste des violations en tout genre, qui sont en nette augmentation contre les femmes et les filles. Au Burundi et dans le monde entier, nous sommes dans une campagne pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ce qui s'est passé, un adolescent qui tue sa mère, un jeune homme qui tue la fille avec qui il était, démontre que certaines personnes au Burundi ne respecte plus la valeur de l'être humain. Tuer au Burundi est devenu insignifiant. Cependant, ce n'est pas surprenant, car même les membres de la police, des autorités dans différentes instances, sur les collines et ailleurs, les Imbonerakure, ils tuent, ils violent, en toute impunité. Une campagne sur tout le territoire burundais s'impose, afin de donner des cours de civisme, d'enseigner aux citoyens le respect de l'autre, le respect des enfants envers les parents, et vice-versa. Mais ceux-là même qui devraient mettre en place ce genre d'initiative, parmi eux, certains commettent ces exactions, ou tout simplement sont complices, et d'autres encouragent ce type d'action. C'est pourquoi chaque personne a une responsabilité. Nous, au sein de notre mouvement, nous avons pris l'engagement de dénoncer ces exactions, afin que tout le monde, que le monde entier sache ce qui se passe au Burundi. nous profitons de cette occasion pour adresser nos sincères condoléances aux familles et gardons espoir que les acteurs seront traduits en justice.
Deux détenus de la prison de Mouranvia viennent de passer plus de 15 jours sans trace après avoir été fait sortir de la prison par le responsable du service des renseignements province de Moualo, connu sous le nom de Gérald Ndaïsenga. Les proches demandent au directeur de la prison et à la direction générale des affaires pénitentiaires de leur dire où seraient partis les leurs. Bonfils Néongueré pour plus de précisions.
Les deux prisonniers sont les nommés Isaac Kwizera et Jean Didier Irambona. Les informations que nous détenons des sources de la radio Nzambagatekakawe dans la prison de Mouranvia révèlent qu'ils ont été retirés de la prison le soir de vendredi 13 novembre 2020 par le responsable du service national des renseignements dans la province Mwaro, Gérald Ndaïsenga. Ils étaient à trois lorsqu'ils ont quitté la prison de Mouranvia. C'était Isaac Kwizera, Jean Didier Irambona et le prénommé Régis. Ce dernier est retourné dans la prison samedi 14 novembre et continue les mêmes sources. Des sources de la radio Nzamba à Gatekakawe dans la province Mwaro, province natale de ces deux prisonniers, indiquent que ces derniers avaient promis de révéler la cache d'armes à Gérald Ndaïsenga, le responsable du service national des renseignements dans la province Mwaro. Les mêmes sources font savoir qu'aucune arme n'a été saisie. Gérald Ndaïsenga se serait fâché contre eux de cet échec et les aurait horriblement torturés. Et depuis cette date, les deux détenus, Isaac Kwizera et Jean-Didier Irambona, ne sont pas revenus dans la prison de Mouranvia, continuent les mêmes sources. Pour le moment, les proches des familles de ces deux prisonniers craignent pour leur sécurité et demandent à la direction de la prison de Mouranvia de les informer sur le nouveau lieu de détention de l'heure. La rédaction de la radio Nzambagatekakawe a tenté de joindre par téléphone Telesforman Irambona, surnommé Matela, le directeur de la prison de Mouranvia, et Gérald Ndaïsenga, le responsable du service national des renseignements dans la province Mwaro, mais leur téléphone n'est sonné et personne n'a pu décrocher pour répondre à notre appel.
Le viol en général et le viol comme arme de guerre en particulier est un crime puni par la loi burundaise et les textes et conventions internationales. Comme le stipule l'article 61 de la loi burundaise numéro 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre, le viol est un crime inamnistiable, imprescriptible, incompressible et non graciable.
Ceci est un message de la radio Inzamba à Gatekakawe, en partenariat avec le mouvement de femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS en sigle.
L'Observatoire de lutte contre la corruption et les mauvaises économiques, Colicom, sollicite l'intervention du président de la République pour prendre des mesures conséquentes à la mauvaise gestion qui s'observe dans les sociétés onatées des régies des eaux. Dans une lettre adressée au président Daichimie la semaine passée, l'Olicom suggère la passation d'un test de recrutement aux candidats qui vont diriger les sociétés publiques sur base des critères bien objectifs. Suivez Gabriel Ophid.
Le premier problème qu'on a mentionné, c'est un problème qui a rapport avec le leadership de ces sociétés où les dirigeants d'entreprises publiques sont nommés sur base des critères non objectifs. D'abord, ils sont nommés sur base de leur militantisme dans les partis respectifs, mais aussi sans tenir compte de leurs compétences antérieure. Deuxièmement, c'est le personnel, dans la plupart des cas, sont recrutés sur base du clientélisme, du favoritisme, sans vraiment tenir compte des compétences requises. Troisièmement, c'est par rapport à un personnel pléthorique, où le personnel dépasse louer l'effectif que ces sociétés en a besoin, raison pour laquelle, dans la plupart des cas, on trouve que les frais de fonctionnement de ces sociétés sont beaucoup plus que les entrées de ces sociétés. Quatrièmement, c'est la question qui a rapport avec les marchés publics. Ces marchés sont donnés à des partisans qui donnent des commissions, mais sans tenir compte, bien évidemment, de la qualité du matériel acheté. Et ce matériel, dans la plupart des cas, sont surfacturés. Là aussi, il y a un grand problème. Le cinquième problème est lié, en fait, aux arriérés, où l'Olicom a déjà comptabilisé selon les informations de disposition actuelles, l'ONATEL élargit des zones aux des arriérés qui doivent couvrir auprès du secteur privé et certains services publics a monté de 75 milliards de francs. Donc pour nous, il y a beaucoup de problèmes qui se trouvent dans cette société, raison pour laquelle un audit organisationnel et financier indépendant et urgent pour desserrer réellement ces vrais problèmes. Il faut qu'il y ait des recrutements des dirigeants de ces sociétés sur base des critères objectifs avec un cahier des charges clair.
Gabriel Philippe, président de l'Olicom, grogne du personnel de l'hôpital de Muyinga pour cause le non-paiement de la prime. Une prime est basée sur les performances et normalement octroyée au personnel médical et au personnel d'appui. Le personnel acquis et le directeur de cet hôpital est d'affecter les fonds pour la réalisation des activités non prioritaires et des coordinations pour plus de précisions.
Témoignage du personnel de l'hôpital de Muyinga, cas de malversation à l'origine de la suppression de la prime. L'exemple illustré par le personnel mécontent est l'aménagement d'une route à l'aide du gravier qui passe derrière l'hôpital et servira de la piste d'entrée et de sortie de l'ambulance qui aurait coûté une somme de 27 millions. D'autres dépenses irrégulières et excessives auraient été faites pour l'abattage des arbres qui se sont écroulés sur la baraque où les gardes malades préparent de la nourriture des patients de l'hôpital. Ce personnel de l'hôpital Muyinga dénonce la passivité du conseil d'administration. Il interpelle la brigade anticorruption à suivre de très près les dépenses faramineuses opérées par la direction de cet établissement sanitaire de la province de Muyinga. Nous avons essayé de contacter le médecin directeur de Muyinga, le docteur Abadi Munyenwali, pour en savoir plus sur les revendications sur les dénonciations du personnel de l'hôpital de Muyinga sans succès.
Merci à Dicodina Azoué, les quatre journalistes du groupe de pression Achou, Christine et Kamikazi, Agnès, Ndiroubousa, Terence, Mozenzi et Jide Halimana totalisent aujourd'hui 407 jours à la prison de Boubanza. Ils sont tous accusés d'atteinte à la sécurité de l'État. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir.